L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité, Vincent Thibault, député du Bas-Rhin de la 9e circonscription de la majorité présidentielle, précisément à propos d'une proposition de loi visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancer, de maladies graves et de handicap. Une proposition de loi validée à l'Assemblée nationale en première lecture à l'unanimité en décembre 2024 déjà, et puis au Sénat avec quelques apports constructifs en février 2026, et donc dans l'attente de l'adoption définitive à l'Assemblée. Et ce sera certainement début juin. Vincent Thibault, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir dans nos studios, c'est une première.
Merci d'être présent. Non, c'est pas une première.
On vous avait eu... Ah, vous êtes peut-être passé dans une autre émission alors.
C'est ça.
Ok, allez, on vous le pardonne. Le cancer, la première cause de décès chez les moins de 15 ans, 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués chaque année en France. À ce chiffre se rajoutent les autres maladies graves et les handicaps. Et la maladie chez l'enfant a cette autre conséquence, c'est de plonger parfois les proches et les familles dans des problèmes financiers. Comment est-ce qu'elles sont remontées, ces données, justement, sur quel support vous avez travaillé?
Alors, en fait, cette loi est inspirée du travail fait avec les associations, notamment de familles, la fédération Grandir sans cancer, et particulièrement l'association Eva pour la vie, qui sont des associations qui sont nées effectivement de familles qui ont connu ce drame d'avoir un enfant atteint de cancer et ou de maladies graves, et donc qui connaissent concrètement toutes les problématiques rencontrées par ces familles. Et c'est vrai que ce sentiment, c'est un peu le but de cette loi, c'est un peu d'essayer de corriger ce sentiment de double peine. Mmh. Alors déjà, il y a la première peine qui est la plus importante et la plus lourde à porter, effectivement, c'est la maladie de l'enfant, avec tous les sentiments de culpabilité qu'on retrouve aussi de l'handicap, par rapport à l'handicap. Et le deuxième sentiment de double peine, la double peine, c'est faire face à toutes les problématiques qui sont inhérentes à suivre, accompagner l'enfant dans sa maladie, c'est-à-dire effectivement un parent qui se met à disposition, donc forcément problématiques potentielles financières, tous les problèmes administratifs aussi, en termes de déclaration au niveau des MDPH, donc pour pouvoir valider, et aussi par rapport à des soins qui sont des fois souvent pris en charge dans le cadre du forfait hospitalier quand c'est à l'hôpital, mais ces mêmes soins... paradoxalement, qu'on veut les faire suivre parce que trop loin de l'hôpital au niveau de la médecine de ville, alors c'est plutôt du paramédical, mais ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc voilà, c'est comment mieux accompagner ces familles, c'est tout le but de cette loi, c'est de les soulager aussi par rapport dans cette épreuve.
Il existe une allocation journalière de présence parentale. C'est-à-dire que ça permet déjà à un des parents qui a besoin d'être présent avec l'enfant, parfois loin du domicile également, tout comme l'hébergement temporaire non médicalisé. Il y a aujourd'hui déjà des aides, c'est quelque chose que vous allez renforcer simplement.
Tout à fait. Alors, aujourd'hui, il y a déjà des aides. Alors, effectivement, il y a eu un gros travail depuis 2020, notamment sur ces sujets-là, qui a été fait par différentes lois, dans lequel s'était beaucoup investi un député et collègue Paul Christophe, que je salue, qui a fait un énorme travail justement sur ce sujet des allocations. Là, on va dire que sur cette loi, c'est un peu les manques. On va pas jouer sur le montant, mais par contre, effectivement, moi, j'avais souhaité, puisque je me suis retrouvé concerné par ce sujet du fait de l'handicap de mes enfants, puisque j'ai deux enfants qui sont handicapés à 80%, quand on est une famille séparée, de pouvoir aussi, cette allocation qui est attribuée à un parent, aussi de prendre en compte le fait que les parents soient séparés, et notamment quand ils ont une garde alternée. Et donc, c'est d'avoir, effectivement, ça n'était pas considéré aujourd'hui... Dans la loi, c'était pas mis en œuvre, et pourtant c'est des problématiques de plus en plus présentes dans notre société, avec aussi beaucoup de couples qui sont séparés. Donc c'est courageux. Vous parlez de l'hébergement. Alors aujourd'hui, il y a effectivement déjà des offres d'hébergement d'accompagner l'enfant, mais la problématique, c'est souvent les enfants qui sont en soins sont là pour plusieurs semaines, et donc souvent c'est la famille qui se déplace. Donc il y a des solutions pour le parent accompagnateur, mais il n'y a pas de solution pour la famille. Alors à Strasbourg, nous avons aujourd'hui, alors je ne sais pas pour faire de la publicité, mais nous avons la Fondation McDonald's, oui, qui est effectivement à côté de l'hôpital, qui offre des solutions d'hébergement. Mais ce n'est pas systématique. C'est pas, ouais. Donc dans la loi, on dit que le centre hospitalier, effectivement, c'est de pouvoir proposer une offre d'hébergement pour justement permettre à ces familles, à la fratrie aussi, de pouvoir être autour de l'enfant. C'est important aussi.
Et on connaît l'importance effectivement, de l'encadrement de l'enfant. Il y a des expérimentations déjà qui avaient été mises en place en amont de l'écriture de ce texte.
Alors, il y a déjà plusieurs expérimentations. C'est pour ça que dans le texte de loi, il y a des choses qui seront figées, qui seront applicables dès le début, dès la promulgation de la loi, pardon, et d'autres qui seront dans le cadre de l'expérimentation, notamment sur un certain nombre de sujets d'attribution de ce qu'on appelle les cartes mobilité ou l'amélioration des délais des déclarations des MDPH qui permet justement de déclencher tout ce qui est JPP et tout l'accompagnement qui va avec, notamment les allocations handicap et autres. Ça, on est sous le cadre de l'expérimentation parce qu'aujourd'hui, sous l'impulsion de la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq, qui était ministre encore il y a peu, il a été lancé des expérimentations. Donc ça vient en complément des expérimentations en cours pour pouvoir effectivement identifier quelle est la meilleure solution. Parce que c'est vrai que, notamment pour avoir aujourd'hui, la déclaration MDPH, elle est essentielle, puisque c'est elle qui permet de déclencher toutes les aides, alors notamment les aides en accompagnement scolaire, les fameux AESH, hein, mais aussi pouvoir attribuer le JPP et ainsi de suite, ou les allocations handicap. Le problème, c'est que ces MDPH sont du ressort des départements. Et dans certains départements, vous avez une réponse sous 2 mois. Vous avez d'autres départements, des fois ça met 8, 9, 10 mois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau de ma permanence localement, à Guenot, ça représente près de 20% des sollicitations que nous avons, des problématiques liées à la MDPH.
Sur ce texte que vous avez co-signé, qui a été co-signé par 140 députés, c'est quoi votre contribution ? C'est un travail commun ? C'est quelque chose que vous avez rédigé, sur lequel vous avez travaillé pendant votre mandat ?
Alors, l'origine du texte, effectivement, c'était une mesure qui était portée par la Fédération Grandir sans cancer et par l'association Eva pour la vie, avait été travaillée initialement avec la députée Charlotte Gucci-Bolognaise, qui était suppléante d'Olivier Becht. Lui n'étant plus ministre, elle n'avait été plus députée, et moi je l'avais accompagnée dans ce travail-là, et je lui avais notamment de rajouter la partie handicap, parce que du coup je trouvais qu'il y a beaucoup de mesures corrélées très bien avec ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu vivre. Et comme elle n'était plus députée, donc j'ai repris ce travail que nous avons fait en commun avec l'association, et nous avons continué pour faire avancer le texte à l'Assemblée nationale en première lecture, au Sénat. Donc ça aussi, il faut après batailler avec les chambres parlementaires, parce que c'est pas un texte gouvernemental, donc c'est vraiment les parlementaires qui le portent. Et là, on l'a réintroduit à l'Assemblée nationale pour la deuxième lecture, pour un vote conforme. C'est-à-dire qu'on va voter le texte du Sénat, comme il est sorti du Sénat. Pourquoi ? Pour que les mesures puissent être applicables le plus vite possible. Bien sûr, il y a certaines mesures, on pourrait faire mieux, mais ce serait, au vu justement des calendriers législatifs et des futures échéances électorales que je ne vais pas citer, ça repousserait la loi au-delà d'un an, voire 18 mois, et on rentrait dans l'incertitude alors qu'on a quelque chose qui est largement attendu par les familles. Et donc là, normalement, si tout va bien, la semaine du 1er juin doit être adoptée définitivement et donc devrait être promulguée derrière.
Quels ont été les apports constructifs justement du Sénat qui ont été rajoutés à ce texte et donc qui va être examiné en deuxième lecture à l'Assemblée ?
Alors le Sénat fait 2 travaux. Un travail d'abord de consolidation des mesures qui étaient en place dans le texte initial. Effectivement, on avait fait un premier travail à l'Assemblée nationale. C'est l'avantage d'avoir une navette parlementaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Il s'avérait que cette mesure méritait d'être consolidée, de parfaire aussi l'échange avec le gouvernement et les services pour que ce soit applicable. Parce que le but du jeu, c'est pas que de voter la loi, il faut qu'elle s'applique. Donc déjà, il y a eu un gros travail de consolidation de ces mesures, notamment sur la partie des MDPH, l'expérimentation, et notamment sur la prise en charge de tout ce qui est, entre guillemets, paramédical, dans le cadre d'une prescription, notamment ergothérapeute et autres. Donc là, on a eu un gros travail de consolidation qu'on a fait ensemble avec le Sénat. Le Sénat a introduit des nouvelles mesures, notamment le fait de pouvoir, dans l'accompagnement financier, de pouvoir permettre de débloquer des assurances vie ou de l'argent qui aujourd'hui, comme les participations, primes d'intéressement, qu'on peut débloquer à certains délais ou dans certaines conditions. Mais là, on a introduit ça aussi. C'est plutôt, alors ça passe adressé à tout le monde, mais ça permet aux gens qui ont la possibilité de le faire, de pouvoir avoir aussi débloqué des fonds. On a introduit, on a aussi consolidé notamment le congé parental à l'annonce de la maladie de l'enfant. C'était 5 jours. Aujourd'hui, on l'a mis à 10 jours. Alors c'est vrai qu'initialement, sorti de l'Assemblée nationale, c'était 15 jours, mais on avait un problème d'inégalité par rapport à d'autres mesures, donc ça s'est ramené à 10 jours. Voilà. Donc globalement, aujourd'hui, on peut dire qu'on a un texte qui est consolidé, un texte de compromis, et qui fait qu'on a un vrai portage transpartisan par l'ensemble des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est ça. En fait, ça va au-delà des clivages politiques qu'on peut retrouver, les groupes parlementaires à l'Assemblée. C'est un texte qui fait consensus et qui risque d'être voté à l'unanimité.
Et c'est le but. Et pour moi, c'est important. C'est pour montrer aussi que dans une période comme actuellement, oui, nous, les parlementaires, quels que soient nos groupes, sur des sujets aussi essentiels, aussi sensibles et qui nous touchent tous, on est capable de se retrouver et de porter effectivement des choses qui sont de l'ordre de l'humain et de l'accompagnement. C'est un sujet, pour moi en tout cas, c'est un sujet majeur et je me félicite en tout cas que l'ensemble des groupes. Et je voudrais quand même aussi particulièrement remercier mon groupe, puisqu'en fait s'il est inscrit à l'Assemblée nationale, c'est parce que mon groupe m'a permis de le mettre et d'écarter tous les autres textes déposés par les autres députés du groupe, de pouvoir mettre ce texte en priorité et de pouvoir être examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Vincent Thibault, c'est votre deuxième mandat, donc
troisième
mandat, autant pour moi.
2017-2022, 2022-2024 et 2024, normalement 2029.
C'est votre troisième mandat. De quoi vous êtes le plus fier de votre apport, justement en qualité de député, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui va ressortir? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on garde de vous?
Déjà ce texte de loi, parce qu'effectivement c'est alors c'est pas la grande réforme ainsi de suite comme on pourrait l'entendre, mais je pourrais avoir la satisfaction de me dire j'ai servi à des Français et des Françaises, j'ai permis à des familles qui sont dans l'attente de ces mesures depuis des années voire certaines des décennies, de pouvoir contribuer effectivement à m'y accompagner, en tout cas. Donc ça, c'est, pour moi, c'est essentiel. Voilà, je dis toujours, je suis le député des petites batailles, pas des grandes. Les grandes batailles, c'est souvent les grandes réformes portées par le gouvernement ou autre. Moi, j'essaie de voir effectivement comment je peux améliorer dans le quotidien. Alors, c'est du travail législatif, mais pas que du travail législatif. C'est aussi des fois accompagner des entreprises, des particuliers, par rapport à leurs problématiques qui sont multiples et diverses. Et moi, la satisfaction, c'est ça. C'est une succession de petites batailles auxquelles je suis très fier. Là, ce matin, j'étais notamment en Allemagne où je suis président du Centre européen de la consommation. Et on a beaucoup travaillé pour institutionnaliser un petit peu l'association qui est essentielle dans le couple franco-allemand. Et en tout cas, on prend de plus en plus d'ampleur et de reconnaissance surtout, puisqu'on a eu le droit aussi à une reconnaissance par l'Assemblée parlementaire franco-allemande dont je suis membre, qui a fait une résolution pour reconnaître le rôle stratégique du Centre européen de la consommation dans le groupe franco-allemand. C'est un autre sujet, mais voilà, c'est des petites batailles qui sont essentielles, qui vont laisser des traces et qui, je dirais, c'est la petite brique apportée au mur qui permet de consolider le mur. Et je suis très sensible à ces sujets aussi bien sociaux que ce sujet européen et d'autres sujets, mais là je ne pourrais pas en faire la liste parce que c'est un petit peu long. Mais voilà, pour moi en tout cas, c'est ces petites batailles. Alors j'ai une loi aussi que j'avais portée sur notamment l'accompagnement pour les pensions alimentaires des enfants majeurs, qui a été votée à l'unanimité aussi à l'Assemblée nationale. Elle n'est pas encore passée au Sénat. Donc là, je vais reprendre mon bâton de berger auprès du Sénat. On va attendre que les élections sénatoriales soient passées pour que cette loi puisse œuvrer, puisque là on a un vrai sujet, notamment sur le sujet étudiant, puisque beaucoup d'étudiants sont en difficulté du fait du non-versement de la pension alimentaire, ils sont majeurs, donc c'est toujours des sujets de conflits familiaux. Et on a mis un dispositif qui marche très bien, notamment pour les familles monoparentales, pour assurer la pension alimentaire avec derrière la possibilité effectivement de pouvoir s'assurer, donc d'améliorer le quotidien des familles monoparentales à partir du moment où il y a un parent qui fait défaut de sa pension alimentaire. Mais là, il faut qu'on travaille ce sujet-là sur les enfants majeurs, c'est aussi un vrai sujet.
Et puis l'importance, ça, je voulais simplement le préciser également pour vous, de la rencontre avec vos concitoyens. En fait, vous avez une permanence, vous bougez. Alors je voulais juste raconter une anecdote, c'est parce qu'il y avait à l'époque de la réforme des retraites, une manifestation sous les fenêtres de votre permanence. Et vous êtes descendu et vous êtes allé échanger avec les gens à Guenot qui avaient manifesté. Et je trouve que c'est notable. Et il faut le dire aussi qu'il y a cette relation directe avec vos administrés.
Alors, je vous remercie de le souligner. Moi, ça me paraît tellement naturel que c'est vrai que du coup, j'en parle pas, mais moi, j'ai toujours eu le sentiment, et notamment dans aujourd'hui, où tout se digitalise et se numérise, moi qui viens du monde du digital, je suis le premier à dire, il nous faut de l'humain et de l'humain. Et j'ai toujours le... bien sûr, on voit les problématiques qu'il y a, qui arrivent, toutes les problématiques des réseaux sociaux, mais pour moi, le numérique ou le digital... a deux fonctions essentielles. Un, c'est faciliter la création de la relation humaine. Et deux, c'est la permettre de la continuité, la pérennité. Mais au milieu, il faut qu'il y ait la relation humaine, le contact. Et moi, j'ai toujours eu goût à rencontrer les autres. Ça, c'est vrai, c'est... Alors, je fais un petit clin d'œil à un film célèbre, Le goût des autres. Mais je pense que c'est... Pour moi, en tout cas, ça fait partie de ma nature. Et je vois pas comment on peut faire de la politique sans aller à l'encontre de... Je suis allé à l'encontre effectivement des manifestants, mais je suis aussi allé à l'encontre à l'époque des Gilets jaunes. Je garde... Et d'ailleurs, ça surprend beaucoup, mais je dis toujours, moi j'ai adoré la période des Gilets jaunes. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais pu rencontrer. On a eu des échanges, ça leur a permis aussi de mieux comprendre, de se rendre compte que c'est pas forcément évident. Effectivement, on a ce qu'on souhaite, mais à un moment donné, il y a la vérité du compromis. Et d'ailleurs, lors de nos échanges, assez rapidement entre eux, ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas forcément d'accord. Donc voilà, c'était même si on avait un gilet jaune, ça veut dire bon, il y a le jeune clair, le jeune vert, le jeune... Voilà, donc chacun avait ses propres idées. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de cette rencontre humaine. Et je combats un peu ces idées, un peu de ce qu'on retrouve un peu dans le monde digital, l'enfermement algorithmique, où en fait, facilement, on se retrouve enfermé dans une boucle. Où forcément on est content parce que tout le monde dit la même chose de ce qu'on a envie de dire. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est la diversité des opinions, la diversité des expériences, la diversité humaine. C'est ça qui fait notre richesse et ce qui est l'histoire de la France en fait.
Merci pour ce petit moment de digression, mais qui était importante aussi également, et ça fait partie aussi de mon travail. Et puis heureuse d'avoir pu vous inviter aujourd'hui en studio. Vincent Thibault, je rappelle, député du Bas-Rhin de la 9e circonscription, à propos de cette proposition de loi et qui devrait être adoptée début juin. Merci à vous.
On l'espère. Merci beaucoup. Au revoir.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.